RCF.
Peindre pour un chrétien, ce n'est pas seulement dessiner, c'est se confier en Dieu, c'est provoquer une rencontre et c'est ce mystère que vous avez essayé de déchiffrer. Marina Copsidas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur du livre « Le Christ Pantocrator » publié aux éditions de l'Harmattan. La véritable question, c'est comment représenter la transcendance. Alors, écrire une icône, est-ce que c'est finalement une peinture comme les autres? Est-ce que c'est réaliser une peinture comme les autres?
Non, l'icône d'abord n'est pas une peinture. Parce que ce n'est pas un peintre. L'iconographe est quelqu'un, sauf exception, d'anonyme. Donc il est totalement au service. On dit que normalement, cette icône, il l'a fait dans la prière. Donc l'icône est totalement liée au culte et à la liturgie.
C'est-à-dire, il y a aussi une question de contexte. Les premiers chrétiens qui étaient donc des martyrs, puisque leur religion était interdite, ont aussi essayé d'être discrets. Est-ce que ça vient de
là? Alors, vous avez raison. Avant d'arriver véritablement à la représentation, on y reviendra, selon des règles de Cunisex, les premiers chrétiens, évidemment, voulaient transmettre un message, mais aussi, ils savaient qu'ils étaient en danger de mort, en quelque sorte. Donc, ils vont représenter leur foi à travers des symboles qui sont, j'allais dire, banal d'un certain façon, c'est-à-dire l'agneau. On sait très bien que le terme d'agneau, c'est dans le prologue de Jean, qui dit qu'il voit le Christ, l'agneau de Dieu. Et également, ils vont représenter le Christ comme le bon berger. Donc ça aussi, c'est une image, j'allais dire, banale. Et ils vont également le représenter avec le symbole du poisson, ictus, Jésus-Christ sauveur.
Quelle a été la part de l'art grec dans la représentation du Christ? Comment est-ce qu'elle s'est construite à partir de ce qui existait, à partir aussi des réalisations du savoir-faire et des techniques des artistes
Alors,
grecs?
C'est exact. Alors, c'est un néoplatonicien Plotin qui va définir les règles de représentation, en quelque sorte, de l'invisible, c'est-à-dire de la transcendance. Et on peut dire que c'est une dématérialisation des formes, de façon très précise, disparition des volumes, des espaces, du poids, des mouvements, des formes, des couleurs. C'est-à-dire que tout ce qui est la peinture de la Renaissance, où on bouge, quelquefois le regard révulsé, des mouvements, des vrais portraits. En réalité, ce sont des vrais portraits. Tous ces aspects-là sont complètement gommés dans l'art de l'icône. Alors là, cette définition de matérialisation, je dirais, est le côté technique de l'icône. Et après, on viendra donc aux écritures et surtout à un concile qui s'appelle Cunisext en 692, qui fait suite au précédent concile qui avait, où évidemment Orient et Occident étaient parlés d'une même voix pour définir la vraie foi dans le Christ, vrai Dieu et vrai homme, et pour s'attaquer et réagir aux hérésies, notamment une qui était très grave, qui était l'arianisme, qui contestait la divinité du Christ.
Vous avez évoqué assez rapidement le concile de Cunisext au 7e siècle. De quelle sorte de règles il va s'agir?
Alors justement, vous avez parfaitement raison, il s'agit de règles très précises. Il y en a une, c'est que peut-être par convenance ou spontanément, on avait mis dans les lieux sacrés des croix. Et évidemment, on ne peut pas piétiner la croix. Donc, il est interdit de représenter la croix sur le sol. Et après, très précisément, puisque Dieu s'est manifesté et s'est incarné, il n'y a plus lieu, alors de reprendre effectivement les représentations paléochrétiennes, d'agneau, de brebis, de berger, mais le Christ, tel que, j'allais dire, dans son humanité, a été vu par ses contemporains. Et donc, c'est de façon, effectivement, de se référer aux Écritures. Alors, dans ce concile, auquel, hélas, on ne sait pas pourquoi, l'Occident et les papes n'ont pas envoyé de représentants.
Ça veut dire qu'il y a une partie de l'Église qui n'a pas tenu compte de ce concile, dans lesquelles on définissait les règles
exact,
par rapport à
exact,
l'image.
Qui est resté
là, on a un fossé entre l'Occident et l'Orient.
Il y a effectivement, je pourrais dire une lacune, ou effectivement un fossé, et surtout que Il y a un des canons qui est très important et que, auquel, évidemment, tout l'Orient a totalement respecté et qui est totalement inconnu de l'Occident. Il est interdit de représenter Dieu invisible. Dieu créateur, ben oui, Dieu le Père. Qui a rencontré Dieu le Père ? À part le Christ, personne. Donc, quel homme peut dire « je vais décrire Dieu le Père » puisqu'on sait, dans effectivement, c'est un testament qui a vu, il est interdit de voir Dieu sinon de mourir.
Donc, si on suit ce concile de Quinisexte, toutes les représentations qui présentent un vieillard pour dire qui est Dieu, ce serait hérétique.
C'est hérétique et je dirais même c'est du folklore.
Pour une orthodoxe.
Pour une orthodoxe. Ça ne correspond à rien. Sur le plan scripturaire, Dieu, c'est la Bible, Ancien, Nouveau Testament. Par rapport à la Bible, ça ne correspond à rien. Alors, pour moi, j'ai une image absolument un peu, je dirais, de folklore. C'est Dieu le Père, avec sur la tête un pigeon, qui est l'Esprit Saint, et sur les genoux, la croix, avec Jésus dessus. C'est pour moi pas réaliste. C'est même hérétique. Par contre, ce qui est très beau, c'est beaucoup l'Occident aussi, les catholiques l'aiment bien, c'est la magnifique Trinité de Roublev, où effectivement c'est symbolique. À travers ces trois anges, c'est le symbole effectivement des trois personnes de la Trinité. Donc si vous voulez, il y a plusieurs façons. Donc une qui effectivement respecte les Écritures et l'autre qui est purement imaginaire. Il y a aussi un autre exemple que je peux donner, qui est purement imaginaire et dans l'Occident, qui représente la résurrection du Christ. C'est-à-dire, on voit un jeune homme, l'air réjoui, qui sort en rigolant d'un sarcophage. Personne n'a vu le Christ en train de ressusciter. Par contre, on a vu le Christ une fois ressuscité, qui s'est approché effectivement de ses disciples. Ils ont vu le Christ à ce moment-là ressuscité. Et par contre, dans la tradition orthodoxe, il y a une très belle icône qu'on appelle effectivement l'Anastasis, qui est symbolique. Et on voit effectivement le Christ, conformément aux Écritures, qui a vaincu les enfers et qui attire à lui l'humanité à la résurrection, à la vie nouvelle, et donc qui entraîne avec Adam et Ève pour les entraîner à sortir de l'enfer, en piétinant effectivement les portes de l'enfer. L'Anastasis, c'est une très très belle icône de Pâques.
Alors, vous êtes en train d'évoquer finalement ce qu'on pourrait appeler une théologie de l'image ?
Tout à fait, c'est exactement ça. Et alors, l'image, quel est son but ? Est-ce que c'est de vous distraire ? Est-ce que c'est, je vais dire, effectivement, dans des lieux de vie, d'être une décoration, d'être même valorisé, votre goût ou votre connaissance des peintres ? Il y a une fracture, si vous voulez, en Occident, c'est la Renaissance. Et c'est à ce moment-là que les peintres ont libre cours à leur imagination, à leur convenance, et les Écritures ne sont très loin. Bon, par exemple, toutes les vierges de la Renaissance sont des ravissantes jeunes femmes, avec un bébé dans les bras, avec un foulard bleu sur la tête.
Ça vous gêne, ça, Marina Copsidas, vous qui êtes orthodoxe ?
Non, ça ne me gêne pas. Mais je crois, pour les petits écoliers qui passent devant, ils ne risquent pas d'être interpellés. Ils voient une jeune femme avec un bébé, hein, ils ne risquent pas d'être interpellés.
Vous diriez qu'il manque à ces peintures ce qui fait le mystère du Christ ?
Oui, bien sûr. Mais oui, la révélation de l'incarnation. J'allais dire, et surtout, il ne faut pas oublier que Marie, mère de Dieu, celle qu'on appelle, dans la tradition orientale, la Théotokos, la mère de Dieu. Et donc la relation, effectivement, la représentation de Marie est très conventionnelle dans l'orthodoxie. Effectivement, c'est un modèle qui a des sources, de la tradition dit, d'un portrait que Saint Luc aurait fait de la Vierge. C'est la source. Et donc, on voit effectivement la Vierge, qui est représentée toujours évidemment de face, avec effectivement ce petit enfant dans les bras. Et alors, il y a la Vierge de tendresse qui pose sa joue sur la joue du Christ. Et il y a la Vierge aussi qui montre à l'humanité le Christ comme effectivement le Sauveur.
Et vous semblez dire qu'on ne peut pas représenter la Vierge comme étant une femme commune, comme vous le disiez, avec son voile sur la tête. Il doit émaner d'elle quelque chose de différent parce qu'elle est théotokos, parce qu'elle est la mère de Dieu.
Et oui, j'allais dire effectivement.
Mais qu'est-ce que vous faites de l'idée que justement chacun est interpellé, et chacun est interpellé pour dire aussi son oui à Dieu ?
Il faut que Dieu à ce moment-là s'adresse à lui, j'allais dire au croyant ou à celui qui cherche, qui regarde. Et donc il faut que quelque chose interpelle. En réalité, cette représentation peut pas être dans la, quelle que soit sa qualité picturale, ne peut pas être dans la banalité. Elle est forcément, vous tout à l'heure, avant vous l'évoquiez, quelque chose de la transcendance. Comme on l'a vu, donc. Et il y a alors un philosophe catholique, que j'ai eu d'ailleurs comme professeur, Philippe Sers, qui parle bien d'un art de délectation et d'un art de prière, qui incite à la prière.
Merci Marina Copsidas. Je rappelle que vous êtes théologienne orthodoxe. On vous retrouve demain.
Merci.